Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, aujourd'hui au fil des pages, nous allons vivre une grande aventure. L'aventure, c'est le thème du livre de Sylvain Venner qui s'intitule La gloire de l'aventure, genèse d'une mystique moderne de 1850 à 1940, qui est paru chez Aubier. Et cet ouvrage est honoré par l'Académie des sciences morales et politiques du prix François-Joseph Audifred, prix annuel qui est décerné. Un ouvrage qui est propre à faire aimer la morale et la vertu et à faire repousser l'égoïsme et l'envie et à faire connaître ou aimer la patrie. Je pense que votre livre répond, Sylvain Venner, à tous ces critères. Bonjour, merci d'être au micro avec nous de Radio Canal Académie.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Donc vous êtes professeur d'histoire moderne. Pas tout à fait professeur, voilà, je vois que vous rectifiez.
Maître de conférence et en histoire contemporaine.
En histoire contemporaine, à l'université de Paris 1. Donc vous enseignez à la Sorbonne, vos cours portent à la Sorbonne. Avez-vous une période historique privilégiée ?
J'appartiens au centre d'histoire du 19e siècle, mais on a une conception du 19e siècle assez élargie qui l'étend inévitablement jusqu'à la Première Guerre mondiale et... en pénétrant dans les bonnes années 30.
Donc c'est un 19e siècle, en effet, élargi. Donc, on peut dire que vous êtes, grâce à ce livre, La gloire de l'aventure, qui, au fond, reprend votre thèse de doctorat, vous êtes l'historien de l'aventure. Mais avant vous, y avait-il des historiens de l'aventure ou l'aventure est-elle une matière historique ?
Non, il n'y avait pas d'historien. Il y a eu un philosophe, un grand philosophe de l'aventure, qui est Vladimir Jankélévitch, qui s'était intéressé à la question dans un livre de 1963. Il y a eu quelques sociologues et anthropologues qui sont intéressés à la question, aux questions des pratiques à risque dans la société contemporaine, comme David Le Breton, Christian Pociello, des gens comme ça, Jean Griffet, mais pas d'historiens.
Donc nous avons le bonheur d'accueillir aujourd'hui le premier historien du désir d'aventure. Mais alors, j'allais vous demander, l'aventure, elle est née avec l'être humain, j'allais dire, parce que vivre, c'est déjà une aventure. Et il y a de tout temps en histoire eu des aventuriers, enfin je pense aux corsaires, je pense aux conquistadors, on peut penser même plus proche de nous encore aux explorateurs, sans parler des chevaliers. Alors, qu'est-ce qui est nouveau au milieu du 19e siècle qui fait que vous vous attachez à ces aventuriers-là ?
Alors ce qui est nouveau, en fait, c'est comme un fusil à deux coups. Il y a quelque chose qui est nouveau d'abord au milieu du 19e siècle, qui est qu'on va définir l'aventure par les espaces lointains. C'était déjà un peu le cas avec les flibustiers du 17e et du 18e siècle. Ça ne l'était pas du tout, par exemple, avec la figure de l'aventurier du 18e siècle, qui était une figure, au contraire, de l'étrangeté dans l'espace quotidien, qui était une figure d'escroc, de courtisan. Casanova, Cagliostro, des gens comme ça. À partir du milieu du 19e siècle, en relation avec le grand mouvement de colonisation et d'exploration du monde, l'aventure va être étroitement liée aux espaces lointains. Et puis, il se passe une deuxième chose qui fait qu'on peut pas dire qu'il y a eu des aventuriers de tout temps. Cette deuxième chose, c'est qu'à la fin du 19e siècle, on va charger l'aventure de toute une série de vertus nouvelles. On va définir l'aventurier comme l'homme qui recherche l'aventure et seulement l'aventure. On va conférer à l'aventure un certain nombre de vertus que jusqu'alors elle n'avait pas. À partir de là, on peut dire deux choses. On peut dire soit il y a toujours eu de tout temps des aventuriers et dire comme Lucien Febvre dans un texte, une introduction à l'histoire des explorations, que le premier homme préhistorique qui a quitté sa caverne aussi bien était un aventurier.
Voilà l'explorateur paléolithique ou néolithique.
Et pourquoi pas, il y a toujours eu, si on définit l'aventure par la prise de risque, par la marginalité, par toute une série de choses relativement objectives, on peut dire qu'il y a toujours eu des aventuriers. Mais des gens qui se définissent comme aventuriers, qui revendiquent cette identité, qui la définissent comme la quête de l'aventure pour elle-même, et qui confère à l'aventure tout un ensemble de vertus suprêmes, ça n'apparaît qu'à la toute fin du 19e siècle.
Donc c'est la thèse de Sylvain Venner, la mystique moderne de l'aventure naît en 1850 et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc toute cette période que vous étudiez, avec des grandes figures évidemment d'aventuriers. Donc vous disiez que c'était le désir des confins, l'exploration des terres encore inconnues, parce qu'à cette époque, il y a encore des espaces inconnus. Mais il y a des blancs sur les cartes de géographie encore au milieu du 19e siècle qui méritent qu'on aille découvrir les choses.
L'histoire des blancs de la carte est d'ailleurs un peu marginale par rapport à ce que je dis, mais très intéressante. Au 17e siècle, il n'y a pas tellement de blancs sur les cartes. Quand on ne connaît pas un endroit, ça n'empêche absolument pas le cartographe de représenter ce qu'il peut y avoir dans le blanc de la carte. Alors on met là où on ne sait pas ce qu'il y a, des montagnes, des animaux, des peuples étranges. Et ça n'est qu'au milieu du 18e siècle que les cartographes, les géographes décident de faire figurer par un blanc l'espace qu'ils ne connaissent pas, ce qui a pour double conséquence à la fois d'identifier clairement les espaces qu'on ne connaît pas et en même temps de susciter le désir d'aller les connaître. Et ça, c'est ce qui est par exemple à l'origine du départ de René Caillé pour Tombouctou, ce désir d'aller là où la carte marque un blanc. Désir qui court tout au long du 19e siècle. Si on pense à Joseph Conrad, par exemple, qui dit qu'en 1868, il est rêvé sur la carte d'Afrique, il avait dit, voilà, j'irai là plus tard, ce là étant l'endroit...
Un blanc
qui est devenu par la suite le lac Victoria. Et ce qui se passe à la fin du 19e siècle, et qui est en relation étroite avec la constitution de cette mystique moderne de l'aventure, c'est que, à partir des années 1890, apparaît le thème du monde fini. Les gens se disent... Bientôt, il n'y aura plus de blanc sur les cartes. Mm-hmm. On devance, en fait, le moment où, effectivement, il n'y en aura plus, puisqu'il y a eu encore des blancs sur les cartes assez tard, en fait, dans le XXe siècle. Mais on devance le moment où le monde sera entièrement connu, cadastré, comme dit l'un d'entre eux. Et ça suscite une énorme nostalgie du temps où les cartes avaient des blancs, du temps où il y avait des sauvages dans le monde, du temps où le monde n'était pas uniformisé, comme on le dit volontiers à partir des années 1890. Et donc une nostalgie du temps des aventures qui va, cette nostalgie produisant elle-même la mystique de l'aventure.
Alors vous parlez d'une mystique. Pour moi, le mot mystique, ça veut dire qu'il y a une transformation de l'être humain parce qu'il a un contact avec, disons, un monde invisible. Enfin, on peut dire ça comme ça, peut-être. C'est une notion de la mystique religieuse, en tout cas. Qu'est-ce qui est mystique dans l'aventure? Le fait de partir aux confins de la Terre et de découvrir des espaces ou des lieux inconnus, qu'est-ce qui est mystique dans cette démarche?
Le fait d'en sortir transformé. C'est-à-dire que on va conférer à l'aventure un certain nombre de vertus suprêmes, l'accomplissement de soi, le dévoilement du sens caché du monde, la saisie de son propre destin, selon les auteurs, on développera tel ou tel de ces thèmes, qui est en gros, qui revient à dire, si vous avez connu l'aventure, la vraie, alors vous en êtes sorti transformé, le monde n'a pas le même sens pour vous, vous avez découvert quelque chose. C'est un petit peu, il se passe à la fin du 19e siècle sur ce discours sur l'aventure, ce qui s'est passé au fond à l'époque romantique avec le discours sur le voyage. Quand on a retourné le discours classique issu des humanistes de la Renaissance sur le voyage, qui conférait au voyage une valeur uniquement à partir du moment où il existait un voyage retour et où on revenait enrichi par les connaissances du voyage. Les romantiques avaient retourné ça
en définissant...
Chateaubriand retourne ça justement dans les différentes préfaces à l'itinéraire de Paris à Jérusalem ou dans d'autres textes, avec l'idée que maintenant ce qui est intéressant c'est de partir, ça n'est plus de revenir. Et c'est le sens du voyage romantique. Mais le voyage n'est pas l'aventure. Le voyage implique la rencontre de l'autre. Le voyage n'implique pas la quête du risque mortel, alors que l'aventure...
L'aventure est une aventure solitaire. Et est-ce que les aventuriers, justement, à partir du 19e siècle, recherchent cette solitude? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du tout aller à la découverte des autres peuples pour entrer en contact avec eux. Ce ne sont pas des anthropologues.
Non, ce ne sont pas des anthropologues. L'usage que font en particulier les romanciers d'aventure des peuples qui se trouvent dans ces espaces lointains dans lesquels on peut vivre des aventures est un usage très ambigu, parce que ces peuples sont dans le fond considérés comme des éléments de la nature hostile qui environnent l'aventurier, l'aventurier étant toujours un homme blanc, seul, effectivement, dans un espace hostile.
Alors vous parlez d'un homme, mais il y a aussi des femmes. À partir de quand naît l'aventurière?
Il n'y a pas tellement de femmes, en fait.
Il n'y a pas tellement de femmes. Voilà qui me donne envie de partir.
Il n'y en a pas tellement, parce que le terme aventurière a une très mauvaise réputation.
Oui,
le terme
ça aventurier... n'a pas le même sens en français, pas en effet. On le dit pour nos amis de la francophonie, ça n'a pas tout à fait le même sens.
Ça n'a pas tout à fait le même sens. Les aventurières sont, assez tard dans le 19e siècle, en fait, identifiées aux courtisanes, voire aux prostituées, aux femmes, comme on dit au 19e siècle, les femmes qui ont un passé. Alors que l'aventurier, pas du tout. L'aventurier, c'est un mot qui remonte au XIVe siècle, qui a successivement défini les mercenaires, puis les flibustiers, puis les courtisans, qui prend un nouveau sens au XIXe siècle, mais qui renvoie à des figures qui étaient certes des figures terribles, mais qui n'étaient pas ces figures à la moralité aussi douteuse que l'aventurière, qui a beaucoup de mal à se dégager à la fin du XIXe et au début du XXe siècle de cette espèce de légende noire de la femme sans vertu.
Donc on dirait plutôt une voyageuse de l'aventure. Enfin, il faut trouver un autre mot.
Non, le terme apparaît comme féminin de l'aventurier. On commence à voir apparaître ce terme-là, mais très tardivement, dans les années 30. Alors qu'on peut trouver des aventuriers... pas honnêtes, ils ne sont jamais complètement honnêtes. Mais en tout cas...
voilà déjà un critère.
Des figures positives de l'aventure dès la seconde moitié du XIXe siècle, à condition que ce soit des hommes. Pour les femmes, il faut attendre beaucoup plus tardivement.
Alors, Sylvain Venner, dans votre ouvrage, une grande partie de vos chapitres sont consacrés aux relations entre l'aventure et la littérature. Parce que, est-ce qu'il existe, c'est ma question, des aventuriers, en tout cas au XIXe et au début du XXe, qui n'est pas écrit? Est-ce que tous n'ont pas rédigé quelque chose, soit des carnets, soit des romans? Est-ce que les aventuriers ne sont pas tous attachés à la littérature?
La question est très compliquée, parce que d'une part, en tant qu'historien, on ne peut travailler sur les gens que s'ils ont écrit, ou si on a écrit sur eux, parce que s'il y a eu de grands aventuriers qui se sont posés comme tels, mais qui n'ont laissé aucune trace,
vrai.
on ne peut rien en savoir. Et d'autre part... on trouve, c'est quelque chose que raconte par exemple Jean-François Degnaud dans ses mémoires, on trouve la critique assez radicale de tous les aventuriers qui ont écrit, et d'ailleurs qu'eux-mêmes ressentent ça assez mal. Blaise Cendrars, par exemple, ressent ça assez mal. Malraux ressent ça assez mal. C'est Saint-Exupéry également. Ces gens qui disent, enfin, ou qui s'entendent dire, si vous étiez un vrai aventurier, vous n'écririez pas.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire la littérature déformerait la véritable aventure. Elle a un côté déformant.
Oui, et puis on soupçonne celui qui écrit, et surtout s'il écrit bien, d'avoir en fait très, très nettement enjolivé ses aventures. Il faut quand même voir que la plupart des aventures de Malraux, par exemple, celles dont il se vante, ont été sérieusement mises en doute par justement des gens qui disent, qui n'admettent pas complètement qu'on puisse être cette figure qui apparaît d'ailleurs dans les années 30, hein, un écrivain aventurier.
Oui, c'est ça. C'est une figure dont on va reparler effectivement tout à l'heure. Est-ce qu'au XIXe siècle, l'aventure, enfin les gens qui partent à l'aventure, en aventure, je ne sais pas comment il faut dire, est-ce que ça n'est pas lié aussi au colonialisme et même à cette période d'expansion de l'Église qui sont le côté missionnaire, les missions aussi? Est-ce que les missionnaires ne sont pas des aventuriers?
Alors peut-être, mais comme peut-être. Peut-être. Mais cette mystique de l'aventure qui apparaît à la fin du XIXe siècle, elle part du principe que vous n'êtes un véritable aventurier que si vous partez pour vivre l'aventure elle-même. Or ça, c'est complètement...
C'est-à-dire, on n'avait pas une mission, c'est ça que
voilà.
Vous voulez dire? Ni une mission, j'allais dire, politique ou colonialiste,
ni politique, ni militaire, et surtout,
ni religieuse.
Surtout pas religieuse, puisque le missionnaire, au contraire, est celui qui annihile son individualité au profit de son apostolat.
Donc vous êtes hors d'un cadre d'obligation, c'est-à-dire vous partez pour votre propre plaisir.
Oui, pour vivre l'aventure.
Ou pour fuir la société, justement.
Ou pour fuir la société, ce qui n'empêche absolument pas que la figure de l'aventurier est complètement récupérée par le discours colonial, avec cette idée que développe Claude Farrère dans un livre de 1905 qui a été pris Goncourt à l'époque, « Les civilisés ». Il dit ça de façon absolument atroce. Il dit qu'il faut envoyer les aventuriers dans les colonies naissantes le plus grand nombre possible, d'une part parce que s'ils restaient en France, ils déséquilibreraient la société. On retrouve ça dans les traités d'économie politique de l'époque.
Parce que ce sont des marginaux.
Parce que ce sont des marginaux, parce qu'ils pourraient être séduits par les théories socialistes ou anarchistes pour tout un tas de raisons. Et d'autre part, parce que sur place, ils seront, comme dit Claude Farrère, le fumier humain sur lequel on fera pousser les fleurs de la civilisation.
Est-ce que vous considériez, par exemple, que Lyautey est un aventurier? Dans votre ouvrage, je ne l'ai pas présenté comme tel, je le dis tout de suite.
Non, parce que pour une bonne raison, c'est que les militaires ont une mission.
Oui, et
un idéal qui les dépasse. Mais à l'intérieur de l'armée, Lyautey est un cas particulier. Lyautey est quelqu'un qui s'intéresse énormément, par exemple, à Isabelle Ebrard. Lyautey est un militaire très original.
Et très séduit par l'aventure. Avec Sylvain Venner, nous évoquons la gloire de l'aventure et nous allons bientôt évoquer les grandes figures des aventuriers de cette période tout à fait particulière du fin 19e, 1850, jusqu'au milieu du 20e siècle, 1850-1940, dans son ouvrage, donc La gloire de l'aventure, paru chez Aubier. Et je vous donne donc rendez-vous pour une seconde émission consacrée à l'aventure et surtout aux aventuriers. À bientôt et merci.
Thank you.